Oui, moi je me présente, je suis d'origine sénégalaise. Le discours que j'ai pris les choses en cours. Le cas Thomas Sankara, je compatis, j'étais très jeune quand il partait, quand il a été assassiné. Je ne savais pas les tenants, les aboutissants. Mais on décrit, on dépeint, je souhaiterais un peu nuancer un peu. Parce qu'au Sénégal, il y a eu alternance. L'alternance n'a pas été faite par les armes. Le pouvoir, on a remis le pouvoir démocratiquement en opposant de 25 ans. Mais aujourd'hui, ce qui se passe chez nous est grave. Je suis rentré lundi. Ce pays, il y a une minorité qui s'est emparée du pouvoir, qui était démocratiquement arrivée au pouvoir. On ne peut rien faire. Les démocrates ne peuvent même pas. Et je ne sais pas. Il y a une minorité qui est là. Ils vivent dans l'opulence. Je vois un train de vie à l'extrême. Et l'autre côté, l'extrême, une majorité écrasante vit dans des conditions incroyables. Le Sénégal est bloqué politiquement, socialement, économiquement. Alors, ici en France, je n'entends pas lever les petits doigts pour dénoncer cette situation. Je n'y comprends pas. Bon, le problème, il faut qu'on le. Bon, on parle de la globalité, mais qu'on parle d'abord les pays où la démocratie a été initiée à l'occidental et qu'on essaie d'en parler un petit peu dans les séances de ce type. J'entends en tout cas apporter un témoignage ici au Sénégal, la situation est bloquée. Politiquement, économiquement. J'en termine.
Savez, quand il y a de l'alternance sans alternative, le problème reste entier. Vous avez beau ne pas vouloir voir la dimension globale du phénomène, ces implications locales sont pratiquement les mêmes partout sur le continent. Il y a une paupérisation accélérée, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, les institutions de Bretton Woods ont installé le paradigme de l'ajustement structurel et le cas du pays que vous citez est justement le premier laboratoire. C'est là que les premiers pas ont été instaurés. Aujourd'hui, nous sommes à la génération de ce qu'on appelle les PRSP, qui sont d'autres variantes, mais tout aussi insidieuses, puisqu'on parle en même temps de faire lutter contre la pauvreté par les populations elles-mêmes, après une démission de l'État et une privatisation de ce dernier. Donc le Sénégal en est le prototype le plus achevé. Et en même temps, il a, comme vous l'avez si bien dit, incarné un moment d'espoir, une coalition de forces qui, pendant pratiquement plus de 25 ans, ont lutté contre un régime de type néocolonial qui a failli à sa tâche. Mais comme je pense l'avoir dit un peu plus tôt, lorsqu'on reste dans le sillage d'un modèle de société qui est tronqué à l'avance, lorsqu'on est arrimé dans une position de subordination, ce que nous appelons la compradorisation, à une mondialisation prédatrice, ce que vous décrivez est tout à fait normal et le Sénégal n'est pas une exception. C'est-à-dire que c'est une vitrine tout à fait utilisée, mais je rappelle, tout en étant sévère, puisque je suis à moitié sénégalais et à moitié égyptien, je peux me permettre l'autocritique, que l'ère du tirailleur n'est pas révolue et que nous sommes encore, et c'est pas pour rien que M. Sarkozy a choisi d'aller faire son discours à Dakar et qu'à mon époque, jamais un tel discours n'aurait pu être fait à l'université de Dakar. C'est que les temps ont bien changé, les étudiants sont triés sur le volet, et il est clair que ce n'est pas à Sarkozy qu'il faut s'en prendre, c'est aux gens qui l'ont invité, qui n'ont pas répliqué, qui dans leur indolence sont restés passifs, et c'est là qu'est le problème. Et je pense que Thomas Sankara, pour revenir à l'analogie, puisque c'est lui qui nous occupe, le syndrome du Sénégal, c'est exactement ce qu'il combattait dans toute la sous-région, et ce qu'il faut éviter. C'est la perpétuation d'un néocolonialisme qui est d'ailleurs complètement dépassé par la mondialisation. Aujourd'hui, l'espace du précaré lutte contre de nouveaux intérêts. C'est l'Asie, c'est le redéploiement des intérêts privés américains. C'est donc une lutte beaucoup plus féroce que celle de notre ère, d'où la pertinence d'un développement autocentré et le fait que les Africains doivent apprendre à compter sur leurs propres forces. Et donc j'espère qu'il y aura, après l'alternance, l'alternative au Sénégal.
Est-ce Excusez-moi, mais Sarkozy n'aurait jamais, je dis bien jamais, pu aller au Burkina du temps de Thomas. Peut-être qu'il serait passé, mais ce discours, il ne l'aurait jamais prononcé. Et s'il l'avait prononcé, il aurait reçu la réponse qu'il fallait. François Mitterrand s'en est hasardé, il a reçu la réponse qu'il fallait. C'est pas... La fierté d'être aux côtés de cet homme fait que souvent, vous qui nous regardez, vous pensez que nous sommes omnibulés par... Non! Ce qui s'est passé dans ces 20 dernières années, je ne dis pas que c'était celui qui allait empêcher, mais ça ne se serait jamais. Même la liquidation de Air Afrique ne se serait jamais passée de cette manière du vivant de Thomas. Voilà, parce qu'on n'a pas changé les mentalités. Donc au Sénégal, ça ne peut pas, ça ne pouvait aboutir qu'à ça. C'est les mentalités qu'il fallait changer et c'est ce que Thomas voulait faire. Changer les mentalités. Refuser, par exemple, de se faire payer, nous, en tant que fonctionnaires, de se faire payer par le budget de la France, ça nous permettait d'écrire à l'aéroport de Ouagadougou à bas l'impérialisme. Merci.
Oui, bonjour. C'est une demande de précision élémentaire. Il y a, je pense, ici une majorité de gens qui connaissent assez bien la situation et qui tiennent à rendre hommage à Thomas Sankara 20 ans, donc après son élimination physique. Mais il y a aussi des jeunes qui n'ont pas connu personnellement cette époque-là, qui n'ont lu quelque chose peut-être en classe, je ne sais pas, ou dans des articles de journaux, peut-être, je ne sais pas. Et puis des gens plus âgés, comme moi, qui ont vécu cette époque-là, mais qui n'en ont pas forcément un souvenir précis, qui peut-être mélange un peu les situations. Donc j'aimerais que, à la tribune, vous nous rappeliez un petit peu comment Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il y avait avant, sous quelle forme il a pris le pouvoir, quel rôle a joué le gouvernement français de l'époque, donc puisque c'était, on vient de citer son nom, François Mitterrand, qui était président de la République à l'époque. Quand il était éliminé, c'était la première cohabitation avec Jacques Chirac. Est-ce que ces éléments-là de la politique intérieure française ont joué un rôle dans les événements politiques au Burkina? Donc voilà, et puis peut-être quelques mesures. On a évoqué celles qui ont été prises en faveur des femmes, mais en matière économique, en matière de défense, relations internationales, etc. Je souhaiterais qu'on rappelle un petit peu des éléments qui certainement manquent à certains d'entre nous. Voilà, merci d'avance.
Oui, ça va être difficile en quelques mots, mais essayons quand même de poser quelques jalons. L'histoire de la Haute-Volta, puisque c'était la Haute-Volta qui était la région dans le découpage colonial, appartient à la OF. Hein, c'était une et vous avez avec tout et c'est une des choses d'ailleurs. C'était ça faisait corps avec la Côte d'Ivoire et aujourd'hui encore on a ces problèmes. La Haute-Volta était détachée, un morceau détaché de la première colonie qui était la Côte d'Ivoire. Mais la France a laissé des petites entités comme cela, alors qu'il y avait une unité administrative qui s'appelait l'AOF. Et s'il y avait eu un grand ensemble qui avait été constitué, il aurait été certainement beaucoup plus puissant. Il y a eu un effort pour unir le Sénégal et le Mali, qui est le président du Mali à ce moment-là, mais ça a mal tourné aussi parce que on était contre, il y a eu cette atomisation, cette balkanisation de l'Afrique de façon à pouvoir évidemment mieux la contrôler. La Haute-Volta a été traversée, a eu plusieurs présidents, il y a eu pas mal, c'est les militaires qui se sont renversés les uns les autres et c'était assez instable jusqu'au moment où vous avez eu cette émergence des jeunes officiers. Comme dans beaucoup de pays, comme Nasser en Égypte, comme les volontés progressistes passaient beaucoup par les jeunes officiers. Thomas Sankara a été formé dans une école à Madagascar, école d'officiers à Madagascar, et il y a eu ce mouvement des jeunes officiers qui voulaient balayer un peu la pourriture du pays et pouvoir reconstruire un pays intègre, puisque c'est le nom qu'ils ont choisi quand ils ont changé le nom du Burkina, de la Haute-Volta, ils ont choisi le pays des hommes intègres, hein, l'intégrité étant pour eux la qualité fondatrice d'un État patriote. Et il a été Premier ministre, hein, il a été nommé Premier ministre, et quand il a voulu faire quelque chose, il a été immédiatement contré et arrêté. Et c'est le peuple qui a voulu qu'il soit libéré. C'est un mouvement populaire qui a voulu, qui avait déjà senti avec lui la volonté de réformes profondes et radicales, de prise en main radicale du peuple par eux-mêmes. Et c'est le peuple qui l'a libéré. À ce moment-là, il a été président du Burkina. Il a totalement, quand il a eu le pouvoir au Burkina, et ça a duré très peu de temps, mais en très peu de temps, il y a eu un changement radical dans tous les comportements de dirigeants. C'était tout à fait, et de ce point de vue-là, c'est tout à fait remarquable. Il y a eu la volonté d'austérité, par exemple. Il n'y avait pas 6 mois que Blaise Compaoré, 6 mois après avoir succédé à Sankara, éliminé par l'assassinat, posait déjà pour Paris Match au bord de sa piscine. On était rentré dans les présidents africains tels qu'on les connaît. Sankara était le président d'un pays pauvre qui voulait pouvoir dire, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, qui pouvait dire tout ce qu'il pensait, ne dépendre de personne, être autosuffisant. Et il a vraiment réformé l'État. À côté de ça, l'Organisation monétaire internationale et la Banque mondiale, quand ils veulent que les États dépensent moins, ils licencient des infirmières, ils licencient des professeurs, ils obligent les États à réduire leur nombre de professeurs, à réduire leur nombre de médecins. C'est ça qu'ils appellent assainir l'État. Et finalement, lui, il a assaini l'État par la gouvernance, justement, ce qu'on appelle aujourd'hui. Quand on allait chez lui, quand on était reçu chez lui, on avait la bière du pays et pas les bouteilles de champagne. Il a donné une R5 à chaque dirigeant de son pays pour se déplacer. C'était des mesures à la fois efficaces, radicales et exemplaires, et qui étaient de nature à nourrir le courage du peuple, qui ne peut pas supporter les sacrifices si on ne lui donne pas l'exemple. Et tout cela était enthousiasmant pour la population burkinabé. Il a voulu que les Burkinabés soient vêtus de coton tissé au Burkina. Et à ce moment-là, il y a eu d'énormes campagnes de dénigrement à Paris, dans toutes les soi-disant organes de presse progressistes, disant que c'était un tyran. Parce que il disait, pas la fripe de l'Occident, mais nos étoffes à nous. Voilà ce que nous voulons pour nous vêtir. On a dit, il est là à ce moment-là. Donc, voilà ce que c'était l'esprit de Sankara. Voilà ce qui était de nature, et c'est ça qui a laissé des traces dans l'esprit. Et tout cela, c'était impossible. Alors, le rôle de la France, bien sûr, la France a plusieurs intérêts. Vous dites, il n'y a pas de pétrole au Burkina, il n'y a pas, etc. Mais il y a le contrôle politique d'une voix à l'ONU. Comme par hasard, Sankara a été assassiné parce qu'à l'ONU, il a voté contre la France. C'était quelque chose d'impensable pour la France. Sur la question de la Nouvelle-Calédonie, quand il y a eu un débat sur la Nouvelle-Calédonie à l'ONU. Et puisque la France est le seul pays anciennement colonial qui conserve encore des colonies en administration directe. Donc vous avez il a voté pour le mouvement Kanak. Et ça, c'était l'offense, c'était inexpiable qu'il ait osé faire ça. Et d'autre part, la contagion pouvait gagner, la contagion de ce qui se passait au Burkina pouvait gagner les pays limitrophes, et notamment la Côte d'Ivoire, et il est certain que le mouvement qui a assassiné Sankara est venu de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez, c'est évidemment, le complot pour éliminer Sankara était inéluctable, parce que il bouleversait, il changeait trop radicalement les choses, il bouleversait les choses, hein, comme dit Sarkozy, que les Africains ne changent jamais. Et ben, vous voyez, quand ils veulent changer, vous voyez ce qu'on leur fait.
D'où il vient Thomas Sankara? C'est un jeune comme enfin, certains d'entre vous. Je ne suis plus jeune, mais bon, je l'ai été. Nous étions tous sur les bancs du lycée, au lycée Zenda, lui au lycée de Bobo. Et c'est comme ça que la Haute Volta, dans le temps, nous étions les privilégiés, parce que arriver au lycée en Haute Volta, c'était un privilège et c'est une joie. Et c'était une façon, justement, de quitter un peu la misère du village. Et être à Ouagadougou, c'est comme si vous étiez, comme si moi j'allais à New York aujourd'hui, ou bien à Londres, la prestigieuse université. Donc, nous avons souffert, nous avons vu nos parents souffrir. Nos parents, du matin au soir, au champ, ou alors ailleurs, chercher la pitance pour nous. Et nous étions parmi les privilégiés parce que pour arriver au lycée, que de sacrifices nos parents ont dû faire pour que nous arrivions au lycée. Et par conséquent, cette prise de conscience pour nous paraissait tellement naturelle qu'on ne se doutait pas que des gens autour de nous pouvaient ne pas penser comme nous. Thomas n'est pas arrivé comme... Certains disent il est arrivé par un coup d'État. Certes. Et c'est quoi un coup d'État? C'est-à-dire, c'est un changement d'un régime par rapport à un autre. C'est pas les élections de Sarkozy, ça on est d'accord. Mais un coup d'État, c'est la définition du dictionnaire, c'est prendre le pouvoir par la force. Comment? Thomas est arrivé en ministre de l'information en 82 après un coup d'État de Seyss Erbo. Au moment où il voulait réformer la culture, c'est-à-dire le FESPACO que tous parmi vous d'entre vous vous connaissez, il voulait quand même changer la nature du FESPACO qui n'était pas une mince affaire. Seyss Erbo a refusé parce qu'il estimait que c'est le centre culturel français qui devait présider et qui devait organiser cela. Et non, Thomas, en tant que ministre de la Culture, a dit non, à partir du moment où on a des jeunes réalisateurs qui peuvent, effectivement, en Afrique, au Sénégal, les Sembène, Ben Ousmane, etc., etc., peuvent, justement, promouvoir le film africain pour qu'on voit des réalités, qu'on ne voit pas que lorsqu'il y a des criquets ou je ne sais pas quoi, la famine, qu'on montre l'Afrique. Et donc, ça a été bloqué au niveau, c'est un petit truc de rien du tout, hein, ça a été bloqué. Et lorsque Thomas Sankara est allé au conseil de ministres, il a dit bon, j'ai un dossier, et il a exposé au conseil de ministres, j'ai mon dossier, voilà ce que je veux qu'on fasse par rapport au FESPACO, voilà ce que je veux qu'on fasse par rapport à la culture burkinabé voltaïque à l'époque, et le président n'est pas d'accord. Et ceux qui, à partir du moment où il n'a pas eu la majorité, du moins les gens n'ont pas été derrière lui pour défendre ce dossier, il a démissionné en tant que ministre de l'Information en déclarant malheur à ceux qui veulent baïonner leur peuple. Voilà d'où est parti. Et à partir de là, la France, la Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire de la Côte d'Ivoire, je le dis jusqu'à présent, rien ne peut se passer au Burkina, en Haute Volta, à l'époque, sans que la Côte d'Ivoire ne soit partie prenante. Donc, la France, c'était le bras armé de la France. La Côte d'Ivoire constituait le bras armé par rapport au Burkina, en tout cas à la Haute Volta, pour ce qui devait être comme changement. Et lorsque un autre coup d'État a renversé Seyss Erbo, parce que justement, l'ajustement structurel avait mis l'État dans un les fonctionnaires et l'État burkinabé et les finances de l'État dans un État tel que on ne pouvait pas accepter, on peut plus continuer à laisser ce colonel au pouvoir. Quand celui-là est arrivé, donc Jean-Baptiste Ouédraogo était de la génération de Thomas Sankara, tout en partageant quelques idées avec lui, n'étaient pas d'accord pour la façon dont il fallait justement mettre le peuple en face de ses responsabilités. Voilà pourquoi le CSP1, tout en étant progressiste par rapport à ce qui a été renversé en 82, n'a pas pu mettre en œuvre ce que Thomas avait espéré par rapport aux populations, par rapport à la façon dont nous devons gérer notre pays, par rapport à la gouvernance. Et par conséquent, les lycéens, les jeunes sont sortis quand ils ont entendu le discours de Thomas le 17 mai, justement montrant que le régime de 82 de Jean-Baptiste Ouédraogo n'était pas différent du régime de Seyss Erbo. Les lycéens sont sortis le 17 mai pour réclamer que ce soit lui qui soit remis au pouvoir. Pourquoi? Parce que Guy Penn, lorsqu'il était de passage, je le nomme parce que c'était au temps de Mitterrand, Guy Penn, quand il a entendu le discours de Thomas par rapport au néocolonialisme, par rapport à l'impérialisme, parce qu'il était allé à la CAO et le tour du Burkina était arrivé, que ce soit le Burkina qui dirige la CAO, l'ex-CAO, et la Côte d'Ivoire et la France ont mis leur veto parce qu'il ne fallait pas que le Burkina, donc la Haute-Volta à l'époque, prenne. Et il a fait un discours pour montrer la connivence entre les régimes de Côte d'Ivoire, du Gabon, de tous ces néocoloniaux-là, du Sénégal, etc., pour empêcher la voix du Burkina de parler. Et Guy Penn a fait la mission le 17 mai. Et quand Guy Penn est arrivé à l'aéroport, déjà, il a été reçu par Jean-Baptiste Ouédraogo et tout son gouvernement. Et il lui a dit, vous ne pouvez pas laisser ce troublion-là. S'il continue comme ça, le Burkina ne recevra plus rien. Et la nuit même, la nuit du 17 mai, on a arrêté Thomas Sankara en tant que premier ministre. Et le lendemain, les lycéens, les jeunes sont sortis. Ils ont appris que Thomas avait été arrêté. Ils ont réclamé sa libération. Voilà où il en est arrivé. Et donc, en tant que premier ministre, il a été arrêté et les jeunes sont sortis. On dit oui, il a fait un coup d'État. Il ne pouvait pas faire ce coup d'État-là tel qu'il s'est présenté. On a fait ça en main nue. Hein. On n'a même pas tiré de coup de feu. On n'a pas tiré de coup de feu. On n'a rien fait. Main nue. Les commandos qu'on appelle les commandos de Pau sont arrivés main nue. Il n'y avait rien. Ils n'avaient rien dans la main. Ils sont arrivés en roulant comme ça dans Ouagadougou. Nous, nous sommes sortis distribuer les tracts. On n'avait rien. On n'avait que les Peugeot bâchés pour me dire que Thomas est en prison et qu'ils ont arrêté Thomas. Et c'est comme ça que le lendemain, Jean-Baptiste Ouédraogo était contraint de le prendre, mettre sous son couvert parce que les lycéens et les jeunes menaçaient d'aller le libérer là où il était au camp Guillaume. Voilà.
Juste sur Guy Penn, je voulais quand même signaler à la salle que c'est lui qui est, entre autres, mais c'est un de ceux qui est à l'initiative de la demande qui a été faite de déclarer, de proposer Blaise Compaoré comme prix Nobel de la paix cette année. Voilà.
Je pense que le tableau est relativement complet. Je me permettrai juste quelques petits éléments. D'abord, effectivement, et je déplore, la question de monsieur me permet justement de déplorer le fait que ce n'est toujours pas dans l'usage des manuels scolaires, que ce serait bien qu'on dise ce qui s'est passé au Burkina. Lorsque l'histoire du Burkina commence, c'est Maurice Yaméogo, d'ailleurs c'est le canard enchaîné qui montre la frivolité du personnage en train de s'éclater avec une jeune fille à Copacabana alors que son peuple meurt de faim. Il y a eu effectivement quelques successions de chefs d'État, mais tous ces coups d'État ont été faits sans effusion de sang. Il faut toujours le rappeler. Il y en a eu 5 ou 6, mais ils se sont faits sans effusion de sang. La dernière est une révolution, une vraie révolution, parce que le processus avait été déjà balisé. Thomas était déjà connu. Ses convictions qui sont finalement, qui puisent dans le marxisme, dans l'humanisme, dans la chrétienté, dans les valeurs africaines, un melting pot de nos générations, étaient partagées par plusieurs personnes dans l'armée. Il s'était illustré déjà de façon guerrière dans l'armée, il avait déjà une notoriété. Il était un leader naturel, il avait un charisme.